Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Avec une planète qui s'est mise à l'arrêt pendant quelques mois, la nature a-t-elle repris ses droits? Les canards et les chèvres, arpentant les rues des grandes villes, ne disent pas tout, mais il est vrai que la pollution a baissé. Un centre de recherche européen estime même que 11 000 morts prématurées ont pu être évitées lors du premier mois de confinement, justement grâce à un air plus pur. À Londres, où le trafic automobile a chuté de 80%, les scientifiques de l'université de Reading ont mesuré dans le centre une baisse de 58% du dioxyde d'azote, un gaz particulièrement toxique émis par les pots d'échappement. Mais le confinement prend fin, les Britanniques reprennent le travail et le gouvernement leur conseille de ne pas reprendre les transports en commun. Alors comment concilier reprise économique et qualité de l'air? Reportage à Londres, signé Marie Billon.
Avant la crise du coronavirus, Londres ressemblait à ça. Aujourd'hui, c'est plutôt... Mi-avril, le trafic automobile dans la capitale était à un peu plus de 20% de la normale.
La pollution au dioxyde d'azote, un gaz toxique provenant des pots d'échappement, a connu la plus grande baisse, de 50 à 70% dès la première semaine du confinement. C'est normal que ça baisse, vu qu'il y a moins de véhicules diesel sur les routes, mais c'est surprenant que ça ait tellement baissé.
Simon Birkett est le fondateur de la campagne Clean Air London. Pendant le confinement, il est sorti plusieurs fois avec son moniteur pour relever le taux de pollution sur Brompton Road, cette avenue qui passe devant le grand magasin Harrods à l'ouest de la capitale, l'une des rues les plus polluées de Londres.
Je mesurais le niveau de particules dans l'air. Elles sont générées par les pneus, les centrales électriques, les fumées de charbon et l'industrie agricole. Dès la première semaine du confinement, le niveau n'était pas plus haut sur Brompton Road qu'au cœur de Hyde Park. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de particules dans l'air. Il y en avait plein. C'est celle due au trafic automobile qui avait disparu.
L'air n'était pas 100% propre à Londres, mais la baisse de la pollution automobile rendait l'atmosphère plus respirable. Alors la mairie ne veut pas revenir en arrière.
Maintenant qu'on sort du confinement, on voit le trafic revenir. On est à la croisée des chemins et il faut absolument qu'on change la façon dont on se déplace dans notre ville.
Caroline Russell est élue à l'Assemblée de la mairie de Londres, membre du Parti Vert. Elle se déplace à vélo depuis des années, en vélo électrique. Plus récemment, la capitale, dit-elle, a déjà commencé à se transformer pour devenir une ville moins polluée.
Il y a trois choses qui sont en train d'être faites. D'abord, l'élargissement des trottoirs sur les grands boulevards et les rues commerçantes en éliminant les places de parking pour que les gens puissent faire la queue sans gêner les passants. Ensuite, ils étendent le réseau de voisinage sans passage qui empêche les automobilistes de gagner 5 minutes en passant par des petites rues résidentielles pour éviter les grandes artères. Et finalement, l'introduction temporaire de nouvelles pistes cyclables pour que plus de gens aient envie de prendre leur bicyclette pour se déplacer.
Car les transports en commun à Londres comme ailleurs restent une bonne solution pour lutter contre la pollution, mais ils sont devenus un problème avec le coronavirus.
Les transports en commun ne peuvent transporter qu'un sixième des voyageurs habituels à cause des distanciations sociales. Avant, environ 350 000 personnes entraient dans le métro toutes les 15 minutes pendant l'heure de pointe. Maintenant, ce n'est que 50 000. Alors si tous ces gens se déplaçaient en voiture, ça créerait des embouteillages monstres. La ville arrêtera de fonctionner. Les livreurs, les ambulances, les bus ne pourront plus avancer.
Pourtant, c'est bien ce que recommande le ministre des Transports. Évitez train, métro, bus, prenez plutôt votre véhicule. Pour contrer ce drôle de conseil, la mairie de Londres a donc décidé de réintroduire toutes les formes de péages urbains, suspendues pendant 2 mois, et d'en étendre même les horaires. Rouler dans le centre de Londres, désormais de 7h du matin à 22h, coûte un peu plus de 30 euros par jour. Alors comment résoudre la nouvelle équation des transports en commun ? Solution pour l'environnement, problème pour la santé. Chris Barker est le secrétaire du groupe de pression Future Transport London.
Ça, c'est la question à 64 millions de dollars. À long terme, le danger posé par le virus va décliner et les gens pourront reprendre les transports en commun. Il y aura un allègement des règles, mais ce ne sera que la moitié du chemin de fait, parce qu'il faut aussi que les Londoniens aient assez confiance pour retourner dans les transports en commun sans avoir l'impression de prendre des risques. Bref, je n'ai vraiment pas la réponse.
L'une des solutions est une pratique plus généralisée des déplacements à vélo, même si la petite reine ne représente qu'environ 3% des modes de déplacement à Londres. Le télétravail peut clairement monter en puissance. Enfin, on peut aussi parier sur le long terme avec la renaissance de la vie de quartier et la revitalisation de l'économie ultralocale.
En Europe, on le sait, la Commission a lancé son Green Deal, un grand pacte vert, pour diminuer drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. C'était avant la pandémie. Les immenses efforts de relance économique vont-ils le faire passer à la trappe? En tout cas, un pays s'est engagé dans des investissements de taille pour faire passer la part d'électricité propre à 47% en 2030, contre 40% en Europe. Pour cela, des nouvelles centrales solaires, mais surtout un pari sur l'hydrogène, un gaz qui peut être produit sans énergie fossile. À Lisbonne, Marilyn Darcy.
Quitte à se lancer dans l'hydrogène à l'échelle industrielle, autant que ce soit de l'hydrogène décarboné. Considéré comme un gaz propre, l'hydrogène a cependant un inconvénient. Il faut de l'énergie fossile pour le produire, pour le stocker et pour le distribuer. Mais grâce à l'évolution technologique, on peut désormais produire ce gaz en utilisant l'éolien, le solaire et l'hydraulique. Il en ressort un hydrogène garanti zéro émission de gaz à effet de serre. L'intérêt pour le Portugal est de constituer une chaîne de production autour d'une centrale ultramoderne. L'investissement total serait de 7 milliards d'euros avec des milliers d'emplois à la clé. Il fallait un lieu pour implanter une centrale de production autonome. Ce sera Sines, l'immense complexe portuaire situé à 200 km au sud de Lisbonne. Il présente de nombreux atouts, l'eau, puisque l'on peut garantir la désalinisation de l'eau de mer pour l'électrolyse, qui permettra d'extraire l'hydrogène de l'eau, et l'espace pour implanter une centrale photovoltaïque qui alimentera le générateur. Auquel s'ajoute le transport du gaz par voie maritime avec l'objectif d'exporter de l'hydrogène. Le Portugal s'est associé aux Pays-Bas qui disposent déjà d'une centrale à hydrogène verte. Mais de par sa dimension et son ambition, Sines prétend être une référence dans la péninsule ibérique et en Europe. Pour atteindre ses ambitieux objectifs d'énergie propre, le Portugal va lancer deux nouveaux appels d'offres internationaux pour l'installation de centrales solaires et ainsi mettre fin au paradoxe d'être le pays disposant de la plus grande radiation solaire du continent et de posséder le plus petit parc photovoltaïque.
Et en Grèce, 10 ans après la crise financière, le pays craint une nouvelle récession. Le nouveau Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, veut donc faire venir les investisseurs étrangers, quitte à prendre quelques libertés avec la défense de l'environnement. Une nouvelle loi publiée en mai a suscité manifestations et pétitions. Elle devra permettre l'exploration puis l'exploitation d'hydrocarbures dans des sites très protégés, classés Natura 2000. À Athènes, Joël Bronner.
Dans le sud de la France, en général, ce qu'ils font quand ils veulent construire, c'est que...
Les ONG Greenpeace et WWF sont ainsi à l'origine d'une pétition qui a réuni 40 000 signatures et qui dénonce ce qu'elle qualifie de crime environnemental. Économiste de l'environnement, Olivier Vardakoulias représente WWF Grèce.
Jusqu'à maintenant, en fait, il n'était pas autorisé à faire des activités d'extraction de pétrole et d'extraction minière, plus généralement, dans les zones Natura, qui sont des zones protégées. Ce ne sont pas des zones protégées dans le sens où on ne peut rien faire dedans, mais ce sont des zones dans lesquelles les activités économiques doivent être compatibles avec la soutenabilité environnementale et la conservation de la biodiversité et des écosystèmes. Et donc cette loi, la première chose qu'il fait est en fait d'autoriser officiellement l'exploitation de pétrole, de gaz, donc qui sont des activités vraiment très lourdes pour l'environnement, c'est vraiment des industries lourdes et qui ont des impacts gigantesques et qui laissent derrière elles d'habitude des désastres environnementaux au sein des zones protégées de l'Union européenne.
Progressivement développé à partir des années 90, le label Natura 2000 s'applique à un réseau de zones protégées à l'échelle européenne. À l'heure actuelle, sur le papier, cette classification s'applique à 27% du territoire terrestre grec et à 19% de ses eaux nationales. À ce stade, bien que rendu possible par la nouvelle loi, l'exploitation d'hydrocarbures dans ces zones protégées demeure malgré tout théorique.
C'est théorique au niveau des activités d'extraction, mais ce n'est pas théorique au niveau des activités de recherche. Les activités de recherche sont des activités qui pèsent énormément aussi sur l'environnement. On parle de ce qui s'appelle techniquement les recherches sismiques, qui en réalité consistent en des dizaines d'explosions au sein des zones naturelles.
Plus fondamentalement, il reste à la Grèce à mettre en place une véritable gestion de ces zones protégées, au-delà de leur simple recensement sur le papier. Yoli Christopoulou est à la tête de Green Tank, un think tank consacré aux questions environnementales. Si elle note des avancées législatives, comme la mise en place d'une nouvelle agence de l'environnement et du changement climatique, qui pourrait notamment coordonner la gestion des zones protégées, elle souligne aussi que beaucoup reste à faire.
Que dit cette nouvelle loi ? Que pour l'ensemble des zones protégées, il existera quatre différentes catégories, qui impliquent un niveau de protection plus ou moins strict. À ce stade, nous ne savons pas encore combien et lesquelles de ces zones seront plus strictement ou moins strictement protégées. Seules quelques-unes ont été désignées. Si l'on prend la carte de la Grèce et que l'on remonte tout au nord, à la frontière avec la Bulgarie, on trouve l'une des plus anciennes forêts du pays. Ici, la protection est et restera stricte. Si on regarde ensuite à l'est du côté des îles, l'archipel des Sporades, un secteur surtout connu pour servir d'abri aux phoques moines de Méditerranée. Certains îlots sont là aussi maintenant désignés comme une zone strictement protégée.
Pour la majorité des autres zones protégées, il faudra donc encore attendre les deux ou trois prochaines années pour connaître le degré de protection qui leur sera véritablement assigné par les autorités grecques. Et Yoli Christopoulou de conclure.
Donc cette loi nous amène à tous être en état d'alerte. Il nous faudra suivre de très près tout ce processus de catégorisation des zones protégées, afin de voir exactement ce qui sera autorisé à l'intérieur. Nous devrons rester vigilants. Voilà ce qui a fondamentalement changé.
Une vigilance qui devra sans doute s'exercer d'autant plus si le pays se retrouve à nouveau plongé dans la récession.
Et avec ou sans épidémie, la planète se réchauffe. Des millions d'hectares sont partis en fumée dans les forêts de Sibérie. Et en Pologne, c'est le plus grand parc national qui a été ravagé par un incendie. 10% de la surface du parc de Biebeja ont brûlé, mettant en péril des élans, des castors et des dizaines d'espèces d'oiseaux rares. Là aussi, la sécheresse fait des ravages. Thomas Giraudot s'est rendu sur place au nord-est du pays pour constater les dégâts.
Plus d'un mois après l'incendie, difficile d'imaginer qu'ici, plus de 5000 hectares de tourbes et de hautes herbes ont brûlé. Après les pluies de ces dernières semaines, un tapis de verdure recouvre la terre noircie par le feu. Mais si les plantes se régénèrent, des animaux et des milliers de micro-organismes ont bien disparu. Mihau Polakowski est ornithologue, guide dans le parc de Biebja depuis 25 ans.
J'ai été un des premiers à sonner l'alerte. Au début, je pensais que cela venait d'une maison, d'un bâtiment, mais en m'approchant, je me suis rendu compte que c'était le marais qui brûlait. Je me sens très triste. Beaucoup d'oiseaux nicheurs ont perdu leur couvée, comme le vanneau, le martinet. Des petits mammifères, comme de jeunes élans, de jeunes chevreuils, n'ont sûrement pas pu fuir les flammes assez vite. Des insectes et des amphibiens sont aussi morts. C'est une zone étendue de marais, et son écosystème unique et si important ici qui a été endommagé.
L'incendie s'est déclaré au pire moment de l'année, en pleine période de reproduction des animaux. Des oiseaux n'ont pas voulu abandonner leur nid. Malgré l'avancée des flammes, elles ont progressé rapidement en raison des conditions climatiques.
L'hiver dernier a été très doux. Il n'y a pas eu de neige, mais il n'y a aussi pas eu de glace. C'est une année très sèche. En plus, le vent n'a pas aidé les pompiers. Il a rapidement déplacé les flammes. Enfin, la zone de l'incendie est très difficile d'accès. Les pompiers ne pouvaient pas y aller avec les camions. Les risques d'incendie seront encore plus élevés cet été, en juillet, en août. Donc on a tous peur que cela recommence.
«
Des hélicoptères ont été mobilisés. Les pompiers devaient parfois marcher 2 km pour atteindre les flammes. Dans son bureau du parc national de Biebja, Artur Viatre se remémore douloureusement ces nuits où l'horizon est devenu rouge.
Ça a sûrement été la semaine la plus longue de toute ma vie. Un désastre. Le plus grand incendie jamais enregistré dans le parc national. Pour comprendre comment c'est arrivé, il faut se rappeler la sécheresse. C'est la deuxième année consécutive que la rivière Biebja, qui traverse le parc, ne submerge pas les marais, la vallée alentour. Mais nous avons eu aussi beaucoup de chance. Vous voyez, ici, là, sur cette carte, c'est le marais rouge, une zone strictement protégée, inaccessible à l'homme. C'est une forêt de tourbières, extrêmement sèche cette année. Si le feu l'avait atteint, il aurait facilement pu détruire 1000 hectares de plus.
Heureusement, les pompiers ont pu stopper son avancée et éteindre les derniers foyers après une semaine de lutte. Aujourd'hui, les membres du parc et les habitants de la région veulent savoir qui a déclenché l'incendie. Une récompense de près de 30 000 euros est même offerte à celui qui trouvera les responsables.
Regardez cette affiche-là sur le mur. C'est bien écrit « Ne brûlez pas l'herbe ». C'est une de nos missions. Expliquer, parler aux agriculteurs, aller dans les écoles. Mais bon, parfois, ça arrive quand même. Avant, partout en Europe, on avait l'habitude, pendant les périodes de sécheresse, de brûler les terres pour les fertiliser. Et c'est du passé. Depuis longtemps maintenant, cette pratique est interdite.
Le ou les incendiaires risquent jusqu'à 10 ans de prison. Miraculeusement, l'incendie n'a touché aucune habitation, blessé personne. Et c'est en partie grâce à la solidarité des habitants que les pompiers ont pu venir à bout des flammes. Une cagnotte en ligne lancée par le parc national a aussi permis de recueillir 800 000 euros distribués aux pompiers volontaires mobilisés. Agnieszka Piotrowska gère un hôtel aux abords du Marais Rouge, la zone strictement protégée du parc national.
Les pompiers ont utilisé notre bouche à incendie. On leur a amené des sandwichs, de l'eau, on leur a fait le dîner et on leur a même proposé de dormir ici. J'ai aussi été très touchée. Des clients, des habitués m'ont demandé comment ça se passait, comment j'allais. J'ai dû recevoir entre 20 et 30 appels par jour.
Agnieszka Piotrowska ne sait pas si son activité, déjà durement touchée par l'épidémie de coronavirus, va être encore plus affectée par l'incendie. Dacă bași muncă zi după zi, n-o să ai timp nici de copii. Zi dacă știi atunci cum o să iei duș, cum o să fii. Lângă ei când ne va fi greu, când tu lipsești mereu. Și o să te plângi că fiul tău ajunge derbedeu.
Autre forêt, autre dégâts en Roumanie. Ce sont les coupes illégales de bois qui menacent cette fois les forêts séculaires. Le dernier vol en date porte sur un volume conséquent qui a laissé les autorités désemparées. À Bucarest, Benjamin Ribou.
100 000 mètres cubes de bois qui se sont envolés, selon les mots du ministre de l'Environnement, c'est l'une des plus grosses coupes illégales de ces dernières années. Ce vol à grande échelle a eu lieu à la frontière ukrainienne, dans le département de Maramourech, particulièrement exposé au trafic de bois. Le parquet a beau avoir ouvert une enquête, les locaux sont fatigués de l'incompétence des autorités locales et nationales. Des manifestations ont eu lieu et des camions chargés de bois ont été bloqués dans des communes. Si l'incapacité des organes de contrôle a stoppé le trafic éclate une nouvelle fois au grand jour en Roumanie, l'ampleur du fléau est encore méconnue. Selon le rapport Greenpeace, seulement 1% des coupes illégales qui ont lieu dans le pays sont en réalité dépistées. Pour l'ONG, ce ne sont pas 200 000 mètres cubes de bois qui disparaissent chaque année, mais plus de 20 millions. En 10 ans, ce volume a plus que doublé, avec des préjudices, là aussi en millions d'euros. Mais au début des années 2000, le pays possédait encore 2/3 des forêts séculaires en Europe, avec plus de 200 000 hectares. Ce chiffre est tombé à 130 000 hectares. Le ministre de l'Environnement a promis d'agir. Il veut désormais protéger en priorité les forêts séculaires, en les sortant du circuit économique. Une énième promesse, du côté de la Commission européenne, on attend toujours que la Roumanie applique enfin correctement le règlement de l'UE sur le bois. Depuis 2013, tous les pays européens ont l'obligation d'appliquer des règles de traçabilité, justement pour éviter la vente de bois illégale.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Pauline Leduc. Retrouvez-nous sur le site de RFI à la rubrique podcast et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.